Allez, notre invité surprise, parce que c'est une belle surprise, il est de retour, vous savez. Serge Tizi est un garçon qui a fait beaucoup pour l'éducation nationale, et l'éducation nationale le lui rend bien, enfin, en tout cas, j'espère. Et il est là dans le studio, il vient nous faire une chronique durant le confinement, il a donné des cours sous forme de fiches pour les secondes premières terminales, il est professeur d'histoire-géographie, ensuite il réalisait régulièrement avec Bibi une émission par mois de géopolitique. Aujourd'hui, il est venu nous faire une petite chronique géopolitique et je l'accueille. Bonjour Serge.
Bonjour James, bonjour chères auditrices et auditeurs de Fréquence Mistral. Aujourd'hui, je vais parler de la mondialisation des droits de la femme. Le mouvement MeToo parti des États-Unis se répand sur le monde et oblige les hommes à changer leur comportement vis-à-vis des femmes, du moins dans des espaces géopolitiques où le droit de porter plainte contre un homme n'est pas interdit par la morale, les traditions ou les lois. Le droit des femmes, comme ceux des enfants, sont intimement liés à la démocratisation de nos sociétés. On trouve encore les traces de ces droits des femmes et de l'égalité dans les sociétés que l'on taxait avant de primitives, que maintenant on préfère nommer premières, comme celles des aborigènes d'Australie, des Maoris, des Amérindiens, d'Amérique du Nord, les Inuits ou les Scandinaves. Dans toutes ces sociétés dites premières, aujourd'hui, l'égalité des droits et des devoirs était un fait entre les deux sexes. Chez nous, s'il y a eu des impératrices et des reines célèbres, il faut attendre le siècle des Lumières pour que le droit des femmes soit proclamé et ne soit plus un luxe réservé à certaines femmes de l'élite. La Révolution française a été pour ça un tournant pour toutes les femmes, par le droit de divorcer ou de s'instruire. Mais il a fallu attendre 1945 en France pour que politiquement le principe de l'égalité des sexes soit inscrit en toutes lettres dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Constitution de notre 4e République. Il a fallu attendre 1965 pour qu'une femme puisse ouvrir un compte bancaire et choisir librement son métier. 1969 pour qu'elle puisse prendre une pilule contraceptive et 1975 pour qu'elle puisse avorter librement grâce à Simone Veil. Il faudra attendre cependant 1980 et la gauche au pouvoir pour que l'avortement soit enfin remboursé par la sécurité sociale. La politique n'a pas achevé l'œuvre entamée il y a 200 ans aujourd'hui. D'autant plus que ces droits sont lourdement remis en question par la situation économique et sociale et la crise liée au Covid. Ainsi, les salaires les plus faibles se retrouvent dans les secteurs les plus féminisés. Les derniers de cordée sont souvent des femmes. Pour le harcèlement, ce sont principalement les filles qui sont victimes du harcèlement, que ce soit sur Facebook ou sur les réseaux sociaux ou dans les cours des récréations. On fait des lois et des tenues vestimentaires sur les filles, pour les filles, mais pas pour celles des garçons. Le croc-top, c'est pas beau, mais le jogging, ça a mimolé, ça ne pose aucun problème au pays de Simone de Beauvoir. Je fais exprès, chers auditeurs, auditrices, de parler de nous, Français. C'est pour bien faire comprendre que nos avis sur les autres pays du monde sont à remettre dans nos propres contextes. Le droit des femmes est ici, comme ailleurs, récent et c'est un dur combat. Un combat contre les traditions, les religions, les moralistes, les réactionnaires, c'est-à-dire ceux qui pensent qu'avant 1968, c'était mieux. Les talibans viennent de prendre le pouvoir à Kaboul. Nous en avons tous été témoins, heure par heure, sur les chaînes en continu. Quelques jours avant la chute de la capitale afghane, des reporters afghans alertaient déjà sur les suicides importants chez les filles et les femmes en Afghanistan. Filles et femmes qui ne voulaient pas vivre sous la charia des talibans qu'ils avaient connus 20 ans auparavant. Aujourd'hui encore, et depuis le départ des Occidentaux, des femmes et des hommes afghans manifestent pour maintenir leur droit à être des êtres humains égaux et libres en droit. Mais Trump, et oui Trump, et l'administration américaine ont trouvé des talibans modérés, avec leurs amis tout aussi modérés, qataris et saoudiens. C'est Trump qui, dans son propre pays, les États-Unis, a nommé un juge anti-avortement à la Cour suprême. Ce même Trump qui a fait un discours anti-avortement avant de quitter le pouvoir. Ce sont aujourd'hui ses partisans républicains de l'Alabama et du Texas qui interdisent l'avortement au bout de 6 semaines de grossesse. Ce sont les républicains texans qui encouragent la délation des personnels de santé et des femmes qui pratiquerait cependant cet avortement. Notez que c'est le seul président, encore lui, qui au nom du Make America Great Again a abandonné les combattantes kurdes et nos forces spéciales contre Daesh pour ne pas déplaire à son ami Erdogan. le même Erdogan qui autorise les massacres de combattantes kurdes par des islamistes en Syrie, le même Erdogan qui enferme et laisse mourir des opposants journalistes et politiques dans ses geôles, le même qui souhaite avoir une place à Kaboul pour ses entreprises du BTP. N'en déplaise à CNews, toutes ces religions, tous les partis politiques religieux ont ce type de comportement patriarcaux et machistes. La plupart des églises chrétiennes condamnent encore l'avortement. Et si les Irlandaises, les Argentiniennes et la semaine passée les Mexicaines ont eu ce droit, c'est au prix d'une lutte et de mobilisation sociale importante contre l'Église catholique et ses dogmes. Les Polonais, des villes et de l'Ouest, les Polonaises, manifestent contre le gouvernement catho-traditionnaliste anti-avortement PiS qui a anéanti le droit à l'avortement polonais. N'oublions pas les manifestations en Espagne il y a quelques années sous le gouvernement de droite de Rajoy, quand ce dernier a voulu remettre en question l'avortement pour lutter contre la fécondité très faible en Espagne. La gauche espagnole a mis un terme à cette politique après des manifestations monstres et mixtes dans toute l'Espagne. Mais au pays de la Movida, le parti Vox, aujourd'hui, se dit ouvertement machiste et franquiste. Chez les hindouistes et les juifs orthodoxes aussi, des pressions sont importantes sur le corps des femmes. Mais là aussi, les femmes s'engagent politiquement pour leurs droits. Manifestations contre les viols sans condamnation en Inde, enfants qui quittent les communautés trop orthodoxes en Israël, les gouvernements locaux indiens souhaitent contrôler la fécondité en offrant un logement à un couple qui se limiterait à un enfant, ce qui va à l'encontre de l'idéologie du BJP, le parti extrémiste hindouiste du Premier ministre actuel Modi. Les Chinois, eux-mêmes, résistent aux injonctions de Xi Jinping de faire plus de 2 enfants. La vie est tellement plus simple avec un seul enfant. C'est une grande victoire que vit l'humanité depuis 15 ans. La fécondité s'est effectivement effondrée, y compris dans les pays en voie de développement. Nous sommes à 2,4 enfants par femme en âge de procréer dans le monde, au lieu de 5 à la fin des années 70. La cause principale est la scolarisation massive des filles et des garçons dans le primaire avec le soutien des Nations Unies. Il y a 40 ans, il n'était que 60%, et les filles étaient souvent non scolarisées dans les pays en voie de développement. La cause est aussi la mondialisation sociétale en cours en ce moment, grâce aux réseaux sociaux. Tout le monde, je dis bien tout le monde, voit bien qu'avec moins d'un enfant, un habitant d'un pays riche vit mieux qu'un habitant d'un pays pauvre avec 7 enfants, comme dans les années 70. Les conservateurs, d'où qu'ils viennent, de quelque confession qu'ils viennent, ont beau faire et beau dire, l'humanité aspire au même bonheur et au même respect. Le monde est peuplé d'Aretha Franklin, de Simone de Beauvoir, de femmes inconnues, mais aussi d'hommes qui soutiennent les luttes des droits des femmes à vivre libres et égales à eux. Ce sont des exemples de véritable fraternité partagée. Il est à espérer et œuvrer pour que ce qui se passe à Kaboul, dans certaines zones du Sahel, mais aussi au Texas, et juste à côté de nous, dans l'appartement à côté de nous, eh bien ne soit plus que des chants du signe des conservateurs et du partisan de « c'était mieux avant ». Salut et fraternité à tous, à la semaine prochaine.
Allez, on termine avec la mort du « Je suis une femme ». Merci Serge, c'était une chronique absolument magnifique. Tu reviens quand tu veux et on est heureux de t'entendre à nouveau sur les ondes de Fréquence Mistral. Merci à toi. On termine avec la mort du « Je suis une femme » après les belles paroles que tu as prononcées. Quelle beauté d'entendre des paroles qui résonnent de sens et de douceur et de fraternité.